VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 18 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Claire Morin-Gibault.
Nous commençons par les titres.
En RDC, des ONG alertent sur la préparation d'élections bâclées et chaotiques en 2023.
En Centrafrique, report des municipales de septembre.
La CEDEAO est inquiète de la durée de la transition au Burkina Faso, mais elle n'abandonnera pas le pays.
Au moins 70 migrants sont morts noyés en 2 semaines au large de la Libye, annonce l'Organisation internationale pour les migrations.
En Ukraine, des missiles russes ont frappé la zone de l'aéroport de Lviv, annonce le maire de la ville.
Moscou est accusé de commettre des crimes de guerre. Entretien aujourd'hui sur l'Ukraine entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, des ONG alertent sur les risques d'élections bâclées et chaotiques en 2023 après avoir relevé des similitudes avec les précédents scrutins aux résultats contestés organisés en 2011 et 2018. Nous faisons le point avec Rosine Mounezero.
La préparation des élections de l'année prochaine accuse déjà un retard de 12 mois. Or, il faut 1000 jours pour organiser des élections transparentes, inclusives, libres et crédibles, en respectant le délai constitutionnel, a expliqué au cours d'une conférence de presse Jérôme Bonzo de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes. Dans une déclaration commune, les 62 ONG ont invité le gouvernement congolais et la communauté internationale à veiller dès maintenant à ce que les prochaines élections soient véritablement libres, inclusives, transparentes et démocratiques et que personne ne puisse travestir les résultats sortis des urnes. Les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante, contestée par les églises catholiques et protestantes, accusent le gouvernement de ne pas libérer les fonds pour des opérations préélectorales, alors que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a affirmé avoir déjà versé plus d'une vingtaine de millions de dollars à la CENI. L'organisation américaine de Sentry, qui suit le processus, va proposer des sanctions individuelles contre des personnes qui entravent le bon déroulement des préparatifs des élections, a fait savoir Justina Gudzowska, directrice de cette ONG.
En République centrafricaine, report des élections municipales qui étaient prévues le 11 septembre, les premières depuis 34 ans, faute de fonds pour les organiser.
Nous avons pris du retard sur l'organisation des élections et elles ne pourront pas se tenir à la date prévue, a déclaré hier soir à l'AFP Mathias Barthélémy Moruba, président de l'Autorité nationale des élections, sans préciser les raisons. Mais la veille, dans un discours devant l'Assemblée nationale que la même agence a pu se procurer jeudi, il avait déclaré « Faute de financement, nous ne pouvons pas organiser ces élections à la date prévue, sans préciser la durée du report. »
La CEDEAO s'est dite hier un peu inquiète de la durée de 3 ans décidée pour la transition au Burkina Faso, où l'armée a pris le pouvoir fin janvier. Mais la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest assure qu'elle n'abandonnera pas le pays. Les problèmes qui frappent le Burkina Faso sont aussi nos problèmes. Ce n'est pas en ce moment ou en ces moments où le Burkina a des besoins que nous l'abandonnerons, a affirmé la ministre des Affaires étrangères du Ghana.
La ministre qui a conduit jeudi à Ouagadougou une délégation ministérielle de la CEDEAO a dit que les autorités burkinabées ont expliqué les raisons derrière la décision de ces 36 mois de transition, notamment la situation sécuritaire du pays. Toutefois, la CEDEAO demande une feuille de route claire pour les prochains 36 mois, a-t-elle ajouté. Sa délégation a rencontré le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, nouveau président du Burkina Faso, que la CEDEAO avait suspendu de ses instances après le putsch du 24 janvier.
Au moins 70 migrants sont morts noyés ces 2 dernières semaines après avoir quitté la côte libyenne en direction de l'Europe, a indiqué hier l'Organisation internationale pour les migrations. Le point avec Nalit Talani.
Selon l'OIM, une embarcation transportant 25 migrants a chaviré le 12 mars au large de Tobrouk, dans l'est de la Libye. Les autorités ont secouru 6 migrants et récupéré 7 corps, tandis que 12 autres sont toujours recherchés. L'organisation estime que les personnes portées disparues sont présumées noyées. L'OIM évoque un autre naufrage datant du 27 février, lorsqu'un bateau s'est renversé 4 heures après être parti du port de Sabratha dans l'ouest. Aucun survivant n'a été retrouvé. D'après l'OIM, les corps de 15 migrants, dont celui d'un bébé, ont été récupérés, tandis que 35 personnes sont encore portées disparues. Ces naufrages portent à 215 le nombre de migrants recensés morts ou disparus en Méditerranée centrale depuis le début de cette année. Plus de la moitié des décès ont été enregistrés près des côtes libyennes. Federico Soda, chef de la mission de l'OIM en Libye, se dit consterné par ces pertes humaines et le manque d'action pour faire face à cette tragédie. Il appelle à une action concrète pour réduire les pertes de vie grâce à une recherche et un sauvetage dédié et proactif et à un mécanisme de débarquement sûr.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, des missiles russes ont frappé ce vendredi le quartier de l'aéroport de Lviv, a annoncé sur son compte Facebook le maire de cette grande ville située près de la frontière polonaise, assurant que la frappe n'avait pas touché directement l'aéroport.
Un journaliste de l'AFP a vu un panache de fumée se dégager dans les airs au-dessus de la zone, ainsi que des véhicules de police et des ambulances fonçant dans cette direction. La grande ville de Lviv a été épargnée par les combats jusqu'à présent, mais l'armée russe a bombardé dimanche une base militaire ukrainienne dans cette région, faisant au moins une trentaine de morts.
Les auteurs de crimes de guerre perpétrés en Ukraine devront rendre des comptes devant la justice internationale, avertissent les ministres des Affaires étrangères du G7 dans une déclaration commune. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les chefs de la diplomatie du G7 se sont félicités des travaux d'enquête et de collecte de preuves en cours, y compris par le procureur de la Cour pénale internationale en Ukraine. Ceux qui commettent des crimes de guerre, y compris par l'utilisation au hasard d'armes contre des civils, devront rendre des comptes, ont souligné les ministres britanniques, allemands, français, italiens, américains, japonais et canadiens dans ce communiqué. Le procureur de la CPI, Karim Khan, qui enquête sur des allégations de crimes de guerre en Ukraine, s'est rendu mercredi dans ce pays. Il s'est entretenu par visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Monsieur Khan a ouvert le 3 mars une enquête sur la situation en Ukraine après avoir reçu le feu vert de plus de 40 États parties de la CPI. De son côté, la Cour internationale de justice a ordonné mercredi l'arrêt immédiat de l'offensive russe en Ukraine. Dans leur déclaration, les ministres du G7 appellent la Russie à se conformer à cette ordonnance. Le Kremlin a rejeté la décision. Même si les jugements de la CIJ sont contraignants et sans appel, la Cour n'a aucun moyen de les faire respecter.
Les accusations contre Moscou de commettre des crimes de guerre en Ukraine se sont multipliées hier, alors que les victimes civiles augmentent dans des attaques sanglantes menées par l'armée russe, rapporte l'AFP. Les habitants de Mariupol, ville stratégique assiégée par les forces russes, s'activaient hier dans les décombres d'un théâtre bombardé à la recherche de survivants.
Les bombardements se poursuivent aussi sur Kharkiv, deuxième ville du pays, où au moins 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Des tirs d'artillerie russes ont fait jeudi au moins 21 morts et 25 blessés dans la localité de Merefa, près de Kharkiv, a annoncé le parquet régional, à Kiev, la capitale. Une frappe sur un immeuble a tué une personne jeudi à l'aube.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré hier « Cibler intentionnellement des civils est un crime de guerre. Après tant de destructions ces 3 dernières semaines, je trouve difficile de conclure que les Russes font autre chose que cela. » M. Blinken a également jugé que Moscou ne faisait pas d'efforts significatifs dans ses pourparlers avec Kiev.
De son côté, le président Joe Biden, qui avait qualifié mercredi Vladimir Poutine de criminel de guerre, l'a traité le lendemain de voyou et de dictateur sanguinaire. Monsieur Blinken a par ailleurs assuré que Monsieur Biden allait menacer son homologue chinois Xi Jinping, avec lequel il doit s'entretenir ce vendredi de représailles si la Chine devait soutenir l'agression russe, notamment par l'envoi d'aide militaire à Moscou.
Selon des diplomates à l'ONU, la Russie a renoncé hier soir à tenir aujourd'hui un vote au Conseil de sécurité sur une résolution liée à l'Ukraine, faute de soutien de ses plus proches alliés.
En bref, pas de relâchement face au virus. Le président chinois Xi Jinping a ordonné hier de poursuivre la politique du zéro Covid au moment où la Chine est confrontée à son pire regain épidémique depuis la première vague de 2020.
La Minute Éco, Nani Talani.
En Égypte, premier importateur de blé russe et ukrainien, on ne parle que d'une chose, le prix du pain. Face à une hausse allant parfois jusqu'à 50%, le Caire va pour la première fois encadrer le tarif du pain non subventionné. Le président Abdel Fattah al-Sissi en personne a convoqué cette semaine les plus hauts responsables en Égypte pour maintenir un prix abordable pour les denrées de base et le socle de la stabilité du régime depuis 60 ans, explique Michael Tanchoum du Middle East Institute. La France va débloquer une aide de 300 millions d'euros pour l'Ukraine qui fait face depuis le 24 février à une attaque de la Russie, a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères. La France livre également des équipements de défense et un soutien en carburant aux forces ukrainiennes. L'Ukraine bénéficie par ailleurs d'un soutien massif des États-Unis et des autres pays membres de l'OTAN. Washington a ainsi annoncé une enveloppe militaire $1 milliard en une semaine. Le mythique studio hollywoodien MGM a officiellement rejoint les studios et la plateforme vidéo d'Amazon. C'est ce qu'a annoncé jeudi le géant du commerce en ligne qui a déboursé $8.45 milliards pour mieux s'armer face à la concurrence dans le secteur du streaming. Il s'agit de la deuxième acquisition la plus chère de l'histoire d'Amazon après celle des supermarchés américains Whole Foods pour $13.7 milliards en 2017.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Enfin, une date pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Dans un communiqué, le comité de normalisation de la FIF annonce que son assemblée générale élective est prévue le 23 avril prochain. Avant cela, une assemblée générale modificative est programmée le 5 avril. Elle permettra de modifier l'article 47.3 des statuts relatifs au parrainage. Cet article est le principal point de discorde à la FIF. Il oblige chaque candidat à présenter une liste incluant les parrainages de 8 membres actifs de la FIF. La FIFA et la CAF ont exigé de modifier cette disposition, soit en supprimant le parrainage, soit en revenant à un système de parrainage sans catégorisation. Didier Drogba avait vu sa candidature rejetée en août 2020 à cause de cette question des parrainages. Toujours en Côte d'Ivoire, le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, a convoqué un groupe de 25 joueurs pour affronter la France le 25 mars et l'Angleterre le 29 mars en amical. On y retrouve les principaux cadres et 3 nouveaux appelés. Le milieu défensif du Betis Séville, Paul Edgar Akwaku, rejoint à 24 ans le groupe des éléphants pour la première fois. 2 autres néophytes, tous 2 pensionnaires des Ligues 2 françaises, ont été appelés. Le gardien du Havre, Mohamed Kone, et le défenseur d'Ajaccio, Ismaël Chester Diallo. Pour le reste, les cadres sont présents. Il s'agit entre autres de Serge Aurier et Logan Bailly en défense, Franck Kessier au milieu, Sébastien Hallé, Wilfried Zaha et Nicolas Pepe en attaque. Au Maroc, Vahid Halilhodžić, sélectionneur des Lions de l'Atlas, a convoqué l'ailier du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli, pour affronter la République démocratique du Congo en barrage du Mondial 2022. Ezzalzouli, 20 ans, avait été retenu pour la première fois sur la liste du Maroc pour la CAN au Cameroun en janvier dernier, mais il avait décliné sa convocation. La presse marocaine lui avait alors prêté l'ambition de représenter l'Espagne, dont il a récemment acquis la nationalité. Le frère et agent de l'ailier gauche, auteur d'un début de saison remarqué avec l'équipe Blaugrana, avait rejeté les rumeurs sur sa décision de jouer pour l'Aurora, affirmant qu'il tenait à jouer pour son pays. La liste des 26 joueurs des Lions de l'Atlas qui joueront contre la RDC
les 25 et 29 mars, ne comprend toujours pas le milieu de terrain de Chelsea, Hakim Ziyech, et le défenseur de l'Ajax Amsterdam, Nusayir Mezraoui, en brouille avec le sélectionneur.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Avant de passer à nos dossiers du jour, toutes mes excuses à Rosine Munezero. C'était elle qui présentait la Minute Écho plutôt que Nanit Talani. Maintenant, les dossiers en République démocratique du Congo. Plus de 62 organisations non gouvernementales et internationales tirent la sonnette d'alarme sur la préparation des élections de 2023 qui pourraient être, selon elles, bâclées et chaotiques comme celles de 2018. Eddie Isango a joint à Kinshasa l'un des signataires de l'alerte, le coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, Jérôme Bonsou.
Les préparatifs des élections devaient commencer en fait au mois d'avril 2021 pour qu'on arrive au 24 janvier 2024, date de la prestation du serment du nouveau président. Mais le bonjour vient d'être relancé au mois de février-mars. Or, nous avons le processus électoral qui a déjà un retard de plus de 10 mois. Et quand le processus électoral a déjà un retard de plus de 10 mois, il y a des conséquences. Parce qu'à ce moment-là, les trois facteurs reconnus aux élections transparentes et crédibles, c'est-à-dire le facteur temps, le facteur délai, le facteur coût et le facteur qualité des élections, risquent de ne pas être au rendez-vous en 2023. Et c'est pourquoi nous avons tiré la sonnette d'alarme pour demander aux uns aux autres, surtout au président de la République, à l'Assemblée nationale, au gouvernement et aux parties prenantes, aux partenaires techniques et financiers, de faire pression de sorte que tout à fait se tente qu'on se mette à faire exécuter la feuille de route publiée par la Commission électorale nationale indépendante pour que les 8 contraintes puissent se transformer en une opportunité opérationnelle des élections. L'autre contrainte, c'est la contrainte financière. Est-ce que nous avons la capacité de mobiliser l'argent? Parce que les élections 2023, ce sont les élections qui seront les élections coûteuses au regard des courtes durées où on va les organiser.
Récemment, le ministre des Finances a déclaré avoir donné à la CENI plus de 20 millions de dollars déjà. Cela ne constitue pas pour vous des signes d'avancée?
Non, ce n'est pas une signe d'avancée. Le fait qu'on devait remettre par le ministre des Finances une enveloppe de plus de 100 millions de dollars. Mais cet argent est en train d'être remis au niveau dans la dotation de la CENI à compte-gouttes. Et dernièrement, il y a eu polémique entre le ministre des Finances et le président de la CENI en ce qui concerne le projet de financement. Et nous avons la sonnette d'alarme pour dire que le ministre des Finances doit manifester sa bonne volonté politique de décaisser rapidement cet argent parce que la CENI était soumise à une obligation de retrait par jour de 10 000 dollars. Or, la CENI voulait avoir plus de 3 ou 4 5 millions de dollars pour organiser les élections de gouverneur et vice-gouverneur. Les élections de gouverneur et vice-gouverneur, la CENI vient de reporter, c'était assuré pour le mois d'avril, mais et c'est pour dire parce que la CENI n'avait pas l'argent en main. Donc il y a un problème, manque de volonté politique, il faut y passer des contraintes formulées dans la feuille de route de la Commission des pensions indépendantes. Il y a aussi d'autres contraintes liées à la législation électorale. Avant-hier, il y a eu un rentrée parlementaire. Est-ce que notre Parlement sera en mesure de doter la CENI des droits essentiels à l'organisation des élections, à l'usage fait de la loi électorale et la révision éventuelle de la Constitution pour aller d'un tour à deux tours de l'élection présidentielle et d'autres considérations dans les réformes électorales?
Jérôme Bonsou, coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Lundi prochain doit débuter en République centrafricaine un dialogue républicain promis par le président Faustin Archange Touadéra après sa réélection à la présidentielle de décembre 2020. Entre 400 et 500 membres de l'opposition non armée et de la société civile sont attendus pour ce dialogue dont l'objectif est de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Pour une analyse, Mohamed Humfa a joint Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
le forum est annoncé pour commencer le 21 mars 2022. Il y a 5 thématiques qui vont être retenues au cours de ce dialogue républicain. C'est des sujets qui concernent la gouvernance, qui concernent la paix et la sécurité, le développement économique et social, des questions liées à la diplomatie et aux relations des États.
Les groupes armés n'y ont pas été conviés. Est-ce que vous comprenez ce choix et est-ce que vous l'approuvez?
Lorsqu'on a préparé le dialogue républicain, nous avons posé la condition que nous souhaitons un dialogue inclusif en mettant plutôt les entités que les hommes. Il fallait qu'on ait les représentants de la jeunesse, on ait les représentants des confessions religieuses, on ait des notables et leaders des administrations, on ait les représentants de la société civile, on ait des gens qui viennent parler au nom des groupes armés pour qu'ils disent le motif pour lequel ils ont pris les armes. Ce que nous avons souhaité dans la recherche de l'inclusivité, c'était qu'on désigne des entités et les entités désignent des représentants qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui la République centrafricaine continue de demeurer dans une forme de crise interminable.
Il y a quelques jours, un ancien chef rebelle, Maxime Mokom, a été remis à la Cour pénale internationale.
Oui.
Est-ce que cette arrestation-là, cette remise à la Cour pénale internationale, ne vient pas un peu plomber le dialogue qui s'annonce?
Ce n'est pas quand on veut rechercher la paix qu'on commence à avoir des gens qui vont à la Cour pénale internationale. Et surtout qu'aujourd'hui, dans le conflit de la République centrafricaine, la Cour pénale internationale regorge plutôt des anti-Balaka. Alors qu'au même moment, nous avons des hauts responsables de l'UPC, de MPC, de tous ces dangereux qui sont là. Cette arrestation-là risque de réveiller le ressentiment d'un groupe à avoir un comportement hostile à la tenue de ce dialogue. Le président africain demandait une extradition ici, mais le pays voisin a plutôt saisi la Cour pénale internationale, alors que le traité de Rome dit que ce sont les États, lorsqu'ils sont incapables de juger leurs citoyens, c'est à eux de demander la saisine de la Cour pénale internationale. Donc moi, je pense que ça a méprisé un peu la souveraineté de la République centrafricaine.
Il y a déjà eu d'autres dialogues. Vous avez d'ailleurs été coordonnateur du dialogue de 2015. Qu'est-ce qui ferait la différence cette fois-ci?
Je ne vois pas beaucoup la différence parce que je sais que le Forum national de Bangui avait écouté toutes les entités. Il n'y avait pas d'exclusion. Les groupes armés étaient présents, les partis politiques, tout le monde était présent. Mais est-ce que nous aurons toutes les réponses à nos attentes? Comme ça n'a pas commencé, je ne peux pas vraiment m'aventurer dans les réponses que je peux vous donner.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Centrafrique toujours, en dépit d'abondantes ressources en eau et de millions d'hectares de terres arables, la RCA souffre de la faim avec plus de la moitié de sa population en état d'insécurité alimentaire. Mais aux portes de la capitale Bangui, un certain nombre d'investisseurs privés ont fait le pari de développer l'agriculture nationale dans la région de la Lobaye, relativement épargnée par les multiples crises sécuritaires qui secouent le pays, et réputée pour la fertilité de ses sols. Précision de Blanche Sanou.
La région fertile de la Lobaye, aux portes de la capitale centrafricaine Bangui, a des allures de jardin d'Éden avec des forêts touffues, sillonnées de rivières et des arbres gorgés de fruits aux fleurs multicolores. Les guerres civiles et exactions de nombreux groupes armés depuis 20 ans ont relativement épargné cette zone forestière. C'est là qu'une poignée d'investisseurs privés ont décidé de miser sur un potentiel agricole immense, mais encore largement inexploité. Parmi ces investisseurs, Raïd Hariri, directeur général de l'entreprise Palme d'Or.
D'après les expériences et d'après mon point de vue aujourd'hui, il n'y a que le secteur privé qui pourrait développer le secteur agricole. Parce que nous assistons à cela depuis des années, à travers les aides alimentaires qui ne développent jamais le secteur. Au contraire, ça nous rend plus feignants, ça inculque dans nos mentalités, dans nos têtes, la mentalité de l'assisté, celui qui a toujours besoin de tendre la main pour qu'on lui donne de l'aide. Alors que quand c'est les privés qui prennent l'affaire au moins, c'est autre chose. C'est une question de partenariat entre ceux qui vont investir avec les producteurs et tout le monde est gagnant.
Malgré d'abondantes ressources en eau et des millions d'hectares de terres arables, la Centrafrique souffre de la faim. Près de la moitié de la population s'y trouve en état d'urgence alimentaire, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Même l'agriculture vivrière est à peine développée, le manioc, la base des repas, est aux deux tiers importé. Une situation que déplore Séraphin Kondaye, agriculteur et employé dans les plantations de l'entreprise Palme d'Or.
Les villageois ont choisi rapidement les cultures vivrières, quoi, telles que vous voyez ici, le champ de manioc. Parce qu'ils pensent qu'au bout de 6 mois, 8 mois, 1 mois, il peut déjà avoir quelque chose pour se permettre de vivre. Mais le palmier, lui, il va attendre au bout de 3 ans. Hein, il ne sait pas comment vivre. Donc, il a préféré faire son champ de manioc. Et puis, à la longue, autour d'un an, il a du manioc qu'il peut manger une quantité et puis vendre l'autre pour avoir subvenir à ses besoins, quoi.
Les millions déversés par des organisations internationales en aide alimentaire sont perçus par nombre de Centrafricains comme des réponses d'urgence au détriment du développement. Des investisseurs comme Jean-Luc Tété tentent de mettre en place une politique de proximité.
Ici en Centrafrique, on a des conditions extrêmement favorables pour faire de l'agriculture de conservation, de l'agriculture régénérative. On a des terres disponibles. On a un climat exceptionnel, on a des conditions de marché assez exceptionnelles. Et en fait, on a décidé de créer un champion de l'agriculture durable.
L'usine Palme d'Or à Bangui offre un tableau peu habituel dans un pays au tissu industriel quasi inexistant. Mais elle reste aujourd'hui l'une des seules pourvoyeuses d'emplois dans l'agroalimentaire. Des particuliers issus de la diaspora sont de plus en plus nombreux à tenter un retour à la terre.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Mauritanie, la lutte contre l'esclavage était à l'ordre du jour d'une rencontre réunissant des délégations de pays du Sahel cette semaine à Nouakchott. Compte rendu de notre correspondant, Mohamed Diop.
Après le Niger et le Mali, la Mauritanie abrite le 3e sommet du réseau G5 Sahel des luttes contre l'esclavage. L'événement a réuni durant 2 jours des ONG des pays du Sahel. Le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad qui militent contre l'esclavage. Raïchatou Altanata de l'ONG Temet du Mali.
C'est assez important aujourd'hui que nous mettions nos efforts en commun pour faire face à cette tragédie, à ce phénomène qui est en train de gagner du terrain de plus en plus dans nos États respectifs.
Un phénomène parfois violent, indique le Sénégalais Aliountine, fondateur d'Afrique Jom Center.
Dans des pays du G5 Sahel, de façon globale, il y a des formes même, je dirais, violentes, et très répressives, où il y a des morts d'hommes. Nous l'avons vu également. Par exemple, à Kaï, l'année dernière et cette année, en dépit, bien sûr, de la volonté politique des gouvernants.
Malgré une pléthore de lois dissuasives, l'esclavage persiste au Sahel. En Mauritanie, pays hôte, la pratique est abolie depuis 1981 et même considérée comme crime contre l'humanité dans la loi 2015. Biram Dabeid, député et président de l'ONG IRA Mauritanie.
Cette synergie qui est en branle en Mauritanie, entre le pouvoir exécutif, depuis l'arrivée du président Kadjouani, le pouvoir législatif, le pouvoir des ONG, de la société civile, cette synergie n'a pas encore englobé les juges, le pouvoir judiciaire qui reste tourné vers le passé. Les juges n'ont jamais appliqué la loi.
Le sommet de Nouakchott annonce donc une alliance des gouvernements et sociétés civiles pour rendre plus efficace la lutte contre l'esclavage. Idée saluée par le gouvernement mauritanien. Cheikh Ahmed Douahmed, commissaire mauritanien aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile.
Le thème de la rencontre reflète la bonne vision et la compréhension parfaite de la nécessité d'un partenariat entre les gouvernements et la société civile afin de promouvoir et de protéger les droits et les libertés.
Plus concrètement, un manuel de lutte contre l'esclavage au Sahel a été établi et gouvernement et société civile sont invités à l'élaboration prochaine d'une stratégie coordonnée visant l'éradication complète de l'esclavage et de ses séquelles dans la sous-région.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia et Claire Morin-Gibourg, Michel Joseph à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.